France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Dernier passage par les Hautes-Pyrénées qui va nous permettre de découvrir une pratique très rare en France de revégétalisation des sites naturels dégradés. Ici, en montagne, les sols subissent une érosion qui affecte l'équilibre naturel. On doit cette solution à la petite société Eco-Altitude qui est hébergée à la Turbine, ce tiers-lieu de travail partagé que nous avons visité hier. Nous serons ensuite en Corse pour écouter Anis Madjar, pédopsychiatre et présidente d'une association qui va au-devant des familles et des enfants des villages de montagne à l'aide de son espace d'accueil itinérant.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Régis Casalas, bonjour.
Bonjour.
On avait promis à Audrey Bertrand, qu'on a eu hier, qu'il nous présentait son tiers-lieu de la Turbine à Rance-Marsous, dans le Val d'Azun, de vous appeler, parce que vous êtes un des bénéficiaires de la Turbine. Ça vous permet de faire quoi, un tiers-lieu, par rapport à ce que vous connaissiez auparavant?
Ça me permet d'avoir des bureaux accessibles directement à l'endroit où j'habite, qui est un lieu quand même assez isolé en montagne. Mais on est plusieurs dans ce cas, à faire du télétravail. Et donc moi, c'est mon lieu de travail permanent. Je travaille depuis la Turbine, où il y a plusieurs bureaux fermés, avec tous les équipements qu'il nous faut, même en montagne. On a la fibre optique, on a imprimante scanner, et puis on a une dynamique avec d'autres personnes qui sont dans la même situation.
Il y a d'autres, justement, télétravailleurs qui se retrouvent là de passage, ou d'autres qui sont comme vous en permanence à la Turbine. Ça crée des complicités, ça crée des liens.
Ah oui, complètement. Oui, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de diversité de profils et de compétences, et donc naturellement, on se retrouve à parler de différents projets, de différentes idées, et parfois on mène même des projets ensemble.
Ah oui, ça vous est arrivé?
Ben oui, par exemple là, je travaille sur un festival qui va avoir lieu prochainement là, dans le Val d'Azun. Et comme j'ai des compétences en tant qu'ingénieur en environnement, mais je vais essayer de participer à l'éco-responsabilité du festival pour le rendre plus responsable au niveau de la gestion des déchets, de la mobilité des gens qui vont venir, etc.
Alors si je présentais en quelques mots Eco-Altitude, je dirais, Régis, que vous reverdissez la montagne.
C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Certains disent qu'on la cicatrise, d'autres qu'on répare la nature, effectivement. Dans les Pyrénées, on a soit des événements naturels comme des glissements de terrain ou des crues de rivières qui peuvent abîmer les sols, mais on a aussi des aménagements, par exemple des pistes de ski, des pistes de VTT, de l'exploitation de carrières qui génèrent des sols dégradés. Et nous, on vient réensemencer ces sols avec des semences locales qu'on récolte nous-mêmes dans la montagne.
Et que vous récoltez, alors ça c'est technique, mais je suis curieux, avec une brosseuse.
C'est ça, faut nous imaginer barouder dans les Pyrénées avec deux quads et deux brosseuses. Le quad tire la brosseuse en quelque sorte peigne le foin. Donc c'est comme un peigne qui est rotatif et qui permet de récolter un mélange de graines pendant l'été, quand les graines sont matures et qu'elles sont prêtes à tomber.
Et quel type de graines vous collectez?
Alors ce sont des graminées, alors la famille des graminées. Et généralement on récolte un mélange de graines qui est composé d'une dizaine, d'une quinzaine d'espèces.
Et ces graines sont ressemées par la suite?
Oui, ça c'est notre travail du printemps ou de l'automne. On ressème ces graines sur les chantiers par une technique qui s'appelle l'hydro-ensemencement ou de l'hydro-seeding en anglais. Donc c'est une machine qui projette les graines avec de l'eau, de l'engrais et de la fibre de bois. Tout ça, ça crée une pâte liquide. Cette pâte liquide, on la projette au sol et on vient tapisser le sol avec ce mélange. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que la graine pousse et que ça tienne le sol.
Vos principaux clients, je vois, sont les collectivités territoriales, les conseils départementaux.
Oui, alors c'est vrai que c'est plus de la moitié de nos clients, le secteur public, les collectivités publiques. Et on travaille aussi avec le secteur privé quand même. Par exemple, on travaille avec EDF, on travaille avec des exploitants de carrières aussi. On travaille aussi avec Terrega qui transporte du gaz, donc des stations de ski aussi.
Alors ce sont des personnes qui majoritairement ont pris conscience des risques du réchauffement climatique et de l'érosion des sols.
C'est sûr que le sujet de l'érosion des sols apparaît de façon évidente. Ici en montagne, on a des paysages qui se dégradent. Ça se voit, et comme ça se voit, on en parle. Et les gens sont conscients des problématiques d'érosion.
Est-ce que vous participez aussi à l'amélioration des pâturages?
Ça arrive parce que il y a des zones que l'on restaure qui sont ensuite utilisées pour du pâturage bovin ou des moutons. Et du coup, elles retrouvent de la bonne herbe parce qu'on peut aussi mettre des graines locales et des graines qui sont favorables au pâturage.
Vous faites un travail de diagnostic environnemental aussi. Est-ce que nous sommes, comme l'on dit, non plus au pied du mur, mais dans le mur, ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir à l'égard du réchauffement climatique et de notre environnement et de notre biodiversité?
Ah, c'est une grande question, mais nous, on part du principe qu'il y a encore de l'espoir et on essaie de montrer qu'il y a des solutions. Elles sont là sur le territoire. Il y a de l'ingénierie, il y a de l'expertise, il y a aussi des ressources dans plusieurs territoires. Il faut savoir les connaître et les utiliser au mieux pour éviter d'avoir un bilan carbone qui est catastrophique ou avoir des dégâts sur la biodiversité. Il y a vraiment des solutions qui existent et on pense qu'il faut multiplier ces solutions quand on ne veut pas éviter les dégâts.
Vous êtes nombreux en France à faire cet enherbage des sols ?
Non, on n'est pas nombreux. C'est une activité nouvelle parce que nous, on regroupe les deux activités, à la fois récolte des graines dans le milieu naturel et réensemencement avec ces graines. Il existe des acteurs dans la partie réensemencement depuis longtemps. C'est beaucoup du travail de paysagiste. Par contre, le lien avec la graine et la connaissance des graines, il y a très très peu de sociétés qui font les deux. On est les seuls dans les Pyrénées, on est nouveau. On est une société plutôt innovante là-dessus.
Merci Régis.
France Inter, carnet de campagne.
Un exemple de deuxième vie pour un bâtiment qui n'est pas une friche industrielle ou une ancienne manufacture, mais cette fois un ancien centre de vacances. On ne remarque lui d'ailleurs quand on arrive à Gézo, à peine 100 habitants en Vallée d'Or, dans les Hautes-Pyrénées. Un domaine d'1,8 hectare, 2500 m² de bâtiments couverts. Et à cet endroit un peu improbable, vu la situation géographique et la densité de population, le centre de vacances se transforme, je cite, en tiers-lieu éco-créatif et culturel de montagne, sous le nom de La Soulane. Les objectifs sont de relocaliser l'emploi, de soutenir les jeunes entreprises et de développer l'économie locale. On a déjà entendu ça ailleurs, mais force est quand même d'admettre que chaque tiers-lieu a son identité propre. Exemple avec cette Soulane qui abrite déjà un atelier de confection textile, ses premiers salariés, un collectif d'artistes, l'Ermitage avec des plasticiens, chorégraphes et musiciens, une entreprise de chauffage, un maraîcher, une conciergerie, un couturier et une créatrice de bijoux. À cela, il faut ajouter un café-restaurant associatif et prochainement une tisanerie, un laboratoire de transformation alimentaire, des bureaux et des espaces de travail partagés. À l'occasion, nous appellerons quand même les responsables de ce lieu incroyable afin de comprendre comment on peut en quelques années créer autant d'activités dans un espace aussi éloigné dans la montagne. Le site, c'est lasoulane.com. Anis Madja, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Je profite de votre présence avec nous pour saluer nos amis corses parce qu'on parle assez rarement des initiatives et des solutions qui naissent dans l'île. Et alors on va en profiter avec vous. Vous êtes présidente de l'association Clap Corse. C'est pas du cinéma, Clap, c'est car et lieu d'accueil parents-enfants. On va souligner deux soucis en Corse. Le premier, celui de la mobilité, et le deuxième, celui de la santé.
Voilà, celui de la ruralité aussi, qui est quand même une des caractéristiques principales de notre département.
Oui. Alors, les problèmes de mobilité entre des villages éloignés, entre la montagne et le littoral.
Il y a très très peu de transports en commun, très peu. Et vous savez qu'en Corse, enfin vous savez sûrement qu'en Corse, on compte en temps et pas en kilomètres. C'est-à-dire que par exemple, nous desservons des villages qui peuvent être à 30 kilomètres, mais il faut 1h30 pour y aller, avec parfois des difficultés en fonction des saisons. Voilà, donc on a quand même des éléments qui sont assez forts. Donc c'est très compliqué pour les habitants des villages, et les villages sont habités, et il y a des enfants dans ces villages, d'avoir accès à un certain nombre de choses facilement.
Oui, alors c'est ce que vous proposez avec cette association. Donc c'est une association de services, parents-enfants itinérantes. Vous êtes soutenus par les autorités locales ?
Alors nous sommes soutenus par la collectivité en partie, par l'ARS, par la CAF essentiellement, par certaines mutuelles, par la Fondation de France, par l'EDF. Nous sommes soutenus modérément, dirons-nous, puisque pour le moment, nous travaillons avec l'appui du bénévolat. Voilà. Donc nous proposons effectivement un dispositif qui est à la fois léger, mobile et itinérant. C'est-à-dire que notre idée, c'est d'aller à la rencontre des populations et de leur apporter un certain nombre de services, plutôt que d'attendre qu'ils viennent dans les villes pour se faire, car on s'est aperçu que la plupart du temps, pour les enfants, ben, ça entraîne un retard, en particulier de prise en charge, s'il y a nécessité de prise en charge.
Oui. Quel type de mots vous rencontrez auprès des enfants ?
On balaye à peu près tous les profils, je dirais, depuis le pas du tout difficulté, c'est-à-dire juste une nécessité de socialisation, c'est-à-dire que les enfants et les parents viennent dans nos lieux pour se rencontrer, pour échanger, ou pour échanger avec l'équipe spécialisée que nous sommes qui vient à leur rencontre parce que le métier de parent, ben, c'est difficile. Il y a plein de questions sur le développement, sur le sommeil, sur l'alimentation. On a parfois envie d'avoir un interlocuteur un petit peu plus spécialisé pour échanger. Ou alors, on a véritablement une fonction de d'observation, puis de dépistage, de troubles qui peuvent être très légers, mais qui pourraient vraiment s'aggraver si on les laissait en l'état, pour lesquels il peut y avoir comme ça un traitement parce que nous sommes tous des professionnels de la parole. Ou alors, il y a une véritable orientation vers les duos ad hoc, il y a un accompagnement. On essaie de prendre les familles et les enfants par la main pour les amener jusque là où il faudrait, sans perdre de temps, puisque notre obsession, c'est la prise en charge précoce.
Mais pour que ces écoutes et cette prise en charge soient efficaces, Annie, il faut avoir une fréquence de visite assez soutenue et une régularité. Quand on passe d'un village à un autre, on peut se perdre et puis parfois perdre les liens avec les personnes qui sont concernées.
C'est notre deuxième obsession et donc nous allons très régulièrement, à jour fixe, à heure fixe, toujours dans les mêmes lieux. Là, pour le moment, nous desservons 8 ou 9 villages, et c'est à jour et heure fixe, c'est-à-dire que, par exemple, c'est au minimum tous les 15 jours, dans le même village, dans le même lieu. Donc, nous partons avec notre camion, notre matériel et notre personnel spécialisé, c'est-à-dire psychologue, psychotricien, orthophoniste, éducateur spécialisé, pédiatre, pédopsychiatre, etc. Et nous arrivons dans le village, nous installons tout notre matériel, la plupart du temps, dans les salles communales, et là, ouvre un lieu qui est à la fois libre, anonyme et gratuit, et pousse la porte qui veut, comme il veut, le temps qu'il veut, et en tout anonymat, ce qui a parfois certains avantages pour certaines familles.
Je disais, premier souci, la mobilité, deuxième souci, la santé. On en a compris déjà la cause avec ce manque de relais, et là vous intervenez en amont, et tant mieux, mais la médecine rurale en Corse, c'est la même que sur le continent. Le problème est le même.
Ah oui. Voilà, absolument. Il y a certaines parties qui sont vraiment très sous-équipées, voilà, et en particulier en ce qui concerne l'enfant, et je dirais sans aller jusqu'à la psychiatrie, mais au moins les difficultés psychiques des enfants. Là, on est vraiment dans un sous-équipement qui est quand même assez majeur, mais ça n'est pas une caractéristique de la Corse. On sait bien que la pédopsychiatrie est sinistrée actuellement.
Il y a une page Facebook pour Clap Corse, c'est Clap Corse, on a ce mot, clapcorse.wixic.com. Merci beaucoup, Annie.
Merci de votre attention et merci de nous permettre une certaine visibilité.
On va tourner une dernière page dans les Hautes-Pyrénées et je vais vous signaler à nouveau un tiers-lieu qui existe depuis peu, depuis un an, en plein centre-ville de Lourdes et qui se distingue lui aussi des autres à sa façon puisqu'il comprend aux étages supérieurs un habitat partagé pour des personnes handicapées, une colocation pour personnes âgées et 5 logements sociaux. Le rez-de-chaussée dispose lui de 2 salles de travail et de réunion, d'un café associatif et d'une épicerie 100% vrac. Ce beau programme est porté par l'association Le Club des 6, et il s'appelle AMASA, A-M-A-2-S-A, ce qui signifie en occitan « ensemble ». AMASA.org pour l'adresse. Nous prenons et nous collectons toujours des initiatives et des solutions en provenance de Meurthe-et-Moselle, du Val-de-Marne et du territoire de Belfort. Merci pour vos messages. Merci à Emma Ferret qui apportait du contenu au carnet cette semaine. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donnaient du volume. Et en l'occurrence aujourd'hui, merci à Jérémy Kaufmann.